C'est le rendez-vous signé de Radio Utopie. Des chemins détournés et des infos dépistées, la dépendance reliquée, c'est chaque samedi de 15h à 17h sur Radio Utopie. Je suis Mme Abolégère Lyonetto et je vous y attends.
La consommation des cigarettes progresse fortement au sein des adolescents dans les écoles. Progresse fortement parmi les adolescents dans les écoles secondaires. D'après les résultats de l'enquête globale sur le tabagisme chez les jeunes réalisée à Kinshasa et à Lubumbashi en 2008, 22,3% d'élèves à Kinshasa fument et 26,6% à Lubumbashi. Le tabagisme constitue un problème sérieux de santé publique, selon les experts. Comment lutter efficacement contre ces fléaux dans les écoles? Nous recevons aujourd'hui M. Rigobert Mouyou Moteba, directeur du programme national de lutte contre la toxicomanie. Encore une fois, bonjour M. Mouyou.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui explique cette progression de la consommation des cigarettes dans les milieux scolaires?
Oui, la progression, ça, cela suppose qu'il y a un problème d'encadrement d'abord des jeunes, et cet encadrement devait passer par des lois qui interdisent aux mineurs de fumer. Et c'est pour cela que nous avons fait, pour avoir de meilleures connaissances, et pour savoir si les jeunes connaissent les problèmes du tabac et ses implications, bien, nous avons effectué une enquête à Lubumbashi, selon les statistiques que vous avez données, c'est ça les résultats, à Lubumbashi, c'est ça, en 2008. Cette enquête a été financée par l'ONS et par le Fonds de recherche américain, CDC, à François. Eh bien, il nous a permis, nous avons d'abord voulu avoir une baisse sur la prévalence et aussi sur les connaissances et attitudes des jeunes vis-à-vis du tabac et de l'accès et disponibilité des fumées et puis de l'exposition à la fumée secondaire du tabac. Eh bien, nous avons trouvé que les gens connaissent très peu les dangers que provoque le tabac et d'autre part, il y a une action de marketing de l'industrie qui le fait. Et à cela, il faut ajouter le fait que le tabac est accessible partout. Il est vendu par les mineurs, il est vendu par les adultes. Et quand vous vous suivez sur la route, eh bien, il y a donc une bonne circulation du tabac.
Alors,
c'est la raison pour laquelle, disons, les gens, il y a un pourcentage d'augmentation.
Alors, vous avez dit qu'il y a augmentation parce qu'il n'existe pas de loi. Pourquoi il n'y a aucune loi qui sanctionne la prise de la consommation de cigarettes chez les jeunes. Et pourquoi, jusqu'à ce jour, il n'y a rien? Il y a ce vide, là.
Et la RDC est signataire et a ratifié la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et qui a été adoptée en mai 2003. Et la RDC l'a signée et ratifiée respectivement en 2004 et en 2005. Et depuis 2006 et même actualisé en 2010, nous avons donc un projet de loi anti-tabac et donc qui doit réglementer toutes ces questions. Malheureusement, disons, cette loi n'a pas encore été présentée au gouvernement. C'est ça qui fait que le pays manque de loi anti-tabac. Mais néanmoins, il existe un arrêté ministériel, que nous appelons 010, qui a été signé depuis 2017 par le ministre de la Santé. Mais cet arrêté prévoit toutes les activités. Et nous travaillons sur base de cet arrêté. Malheureusement, le texte qui doit accompagner cet arrêté, c'est-à-dire un arrêté ministériel qui prévoit les sanctions et les taux des amendes à faire payer éventuellement en cas d'infraction, et cela n'est pas encore signé.
Alors,
ça, c'est un peu notre temps difficile.
Voilà. Alors, M. Mouyou, quels sont les facteurs qui favorisent la prise, la consommation du tabac chez les jeunes écoliers, chez les jeunes élèves?
Bon, nous avons fait une autre enquête en 2005 sur la notion de toxicomanie et tabac, mais là-dedans, étant donné que le tabac est un facteur qui prédispose aussi, disons, à la toxicomanie parce qu'il entraîne la dépendance, eh bien, nous avons trouvé qu'il y a le fait d'abord de compagnonnage par imitation des amis entre eux, surtout à l'école, et ceux qui fument entraînent plus facilement les non-fumeurs à s'associer à leur cause. Et ceux qui ont des amis, disons, fumeurs, eh bien, les non-fumeurs sont écartés en disant que voilà, vous n'êtes pas branchés avec une chance familiale, c'est vraiment scolaire. Donc, le fait d'avoir des amis qui fait que, qui sont mal encadrés, eh bien, ça favorise. Mais il y a aussi, disons, les problèmes comme le fait de vouloir un peu être grand. Vous voyez que les gens qui suivent pensent qu'ils sont grands et les enfants qui veulent devenir grands. Et ils suivent. Alors, donc, ça entraîne également les autres à vouloir suivre. Et d'autre part, il y a aussi le problème de, par exemple, chez les jeunes toxicomanes que nous avons rencontrés. Et lorsqu'ils vivent dans les milieux, dans le froid, dans l'obscurité, eh bien, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui leur donne un peu, qui leur donne un peu de stimulus, c'est-à-dire qui les empêche d'avoir peur, d'avoir des soucis vis-à-vis de moustiques, de piques. Et bien, ces jeunes gens aussi, ils suivent, à côté bien sûr de l'alcool et autres chambres qu'ils prennent. Et c'est parmi les motivations qui font que, donc, l'imitation, parfois il y a le maître d'école ou le médecin qui suit, et bien les enfants ou les gens ont tendance à imiter la personne qui leur admet. Et c'est plus dangereux lorsqu'il s'agit d'un star. N'est pas comme le star que nous connaissons aujourd'hui. Si tu veux apprendre quelque chose, et bien, c'est vite imité et les gens pensent qu'il faut se rassembler ou qu'il à ce stade-là. Alors, donc, ce sont des facteurs qui poussent les gens
à fumer. Alors, on peut dire qu'un jeune qui vit dans une famille où les parents fument régulièrement et est facilement attiré par la cigarette.
Lorsque son père fume ou sa mère fume, eh bien, le jeune, il a tendance à fumer aussi.
Alors, on parle aussi des fumeurs secondaires. De quoi s'agit-il exactement?
La fumée secondaire, c'est où les fumeurs secondaires? Ce sont les gens qui ne fument pas, mais qui vivent dans l'ambiance, dans l'environnement des personnes qui fument. Ça peut être au travail, ça peut être dans les lieux publics, ça peut être à la maison. Donc, le non-fumeur, il fume quand même parce qu'il avale la fumée du fumeur actif. C'est ça donc qu'on appelle, disons, le fumeur secondaire. C'est la fumée qui se dégage du bout incandescent de la cigarette. Et considéré comme la fumée secondaire.
Alors, ces jeunes de l'école secondaire, quels sont les lieux où ils fument généralement? Parce que je me dis, est-ce que c'est dans la cour de l'école ou c'est à l'extérieur, en cours de route, dans les lieux publics? Est-ce que d'après vos enquêtes, généralement, ils fument à quel endroit précis?
D'après, à l'école, en principe, quand l'école a interdit, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas interdit. Quand l'école a interdit, et bien les jeunes ne fument pas à l'école, ils se refument pendant la récréation dehors et ils fument. Et ils fument aussi sur la route, ils fument aussi à la maison, ils fument aussi dans les lieux où ils se retrouvent ensemble.
Voilà, donc dans les lieux où ils se retrouvent ensemble. Alors parlez-nous des dangers ou des conséquences néfastes de la fumée chez les jeunes écoliers.
Bon, les jeunes écoliers qui fument parce qu'ils ont tendance. Le danger, c'est que quand on commence à fumer, on est poussé aussi à prendre la drogue et le chanvre. Donc ça, c'est vraiment un effet consécutif à ça. À fumer, à prendre la drogue ou à prendre l'alcool. Donc ça commence à. Et alors, vous savez que lorsqu'on prend ces substances, on devient toxicomane. Et pourquoi on appelle ça toxicomanie? Parce qu'il s'agit de substances qui créent la dépendance. Et la personne qui a commencé continue à sentir le besoin de consommer ses substances et n'arrête plus. Et il n'est pas satisfait lorsqu'il est en état de privation. Donc c'est cela qu'il est obligé de chercher par conséquent, par tous les moyens, à fumer, à trouver ce qu'il mange. Alors, s'il n'a pas l'argent, ce jeune homme peut le demander. Il peut voler à la maison de l'argent. Oui. Il peut voler en public de l'argent. Voilà un peu. Alors, un voleur sur lui, vous savez ce qu'un voleur sur lui, il n'aime pas qu'on le soutienne. Il est capable de tuer, peut-être qu'il veut tuer quelqu'un, parce qu'il est dans le besoin, alors qu'il n'a pas voulu, nécessairement. Oui. Donc voilà un peu les conséquences. Mais il y a les conséquences, ce sont des conséquences sociales et sécuritaires. Mais il y a aussi les conséquences sur le plan de la santé. C'est pour cela qu'on en parle davantage. Mmh. Parce que les jeunes qui fument précocement, avant 18 ans, ce sont des gens qui enlèvent, en quelque sorte, 20 à 25 ans de leur durée de vie. Donc, quand les jeunes pourront faire 70, 80 ans en plus, les jeunes gens pourront mourir facilement, précocement, peut-être vers 30, 40 ans. Donc, pourquoi? Parce qu'ils ont abîmé leur corps. Ils ont abîmé leur corps. Oui. Et il y a un certain développement de substances telles que le cœur peut être affecté. Donc, le cœur peut développer un cancer du cœur, un cancer de poumon, un cancer de bronche. Il peut facilement développer, disons, la tuberculose. Parce que la fumée brûle, disons, le poids léger, sur le poids.
Oui, monsieur.
Même quand vous emballez, le petit son poil, on se peut toucher, et bien vous voyez que il y a une préparation déjà aux complications ou aux autres infections pulmonaires.
Voilà.
Pas mal la tuberculose.
Voilà, vous avez une question.
Monsieur
Rimonet, nous allons passer tout à l'heure. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Benjamin Mende nous appelle des Bounia, dans la province orientale, et Sokissé Bekingo Manema. Vous voulez également participer. Le standard est déjà ouvert. Composez le 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment lutter contre le tabagisme en milieu scolaire? Benjamin Mende, bonjour. Benjamin Mende, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Alors, je vais corriger Michel, ce n'est pas Benjamin Mende, mais plutôt que Benjamin Mende.
Benjamin Mende, merci, allez-y.
Ok, alors ce que moi je voulais dire à notre invité, c'est quoi? C'est vraiment un sujet très important qu'on est en train de parler sur notre radio Cassi. Alors ce que je voulais lui apporter, c'est quoi? Il a parlé des facteurs qui favorisent le tabagisme au niveau des écoles. Il a parlé également, il y a des enfants qui vivent dans des familles où les parents sont des fumeurs. Mais il a juste oublié une chose. Il fallait également signaler également qu'il y a des enseignants aussi qui sont vraiment des fumeurs, qui favorisent ce que les petits enfants soient des fumeurs également. Moi, j'ai fait la pédagogie, je connais mieux, on dit souvent que non. L'enseignant doit être un modèle, et puis un enfant, c'est juste un imitateur de son enseignant.
Alors, Benjamin, quelle est la situation dans les écoles de Bounia? Les enfants fument également, ils prennent beaucoup de la cigarette, les jeunes gens.
Oui, oui, il y a vraiment plein d'enfants qui fument. Alors, moi, j'ai attribué la faute d'abord aux enseignants, puisque d'abord, les mêmes enseignants d'abord sont des fumeurs, les directeurs sont des fumeurs. Alors, les enfants, tous maintenant, imitent maintenant le pas des enseignants. Et puis de deux, je voulais parler aussi à la curiosité des enfants. Alors vous savez, déjà là, en âge d'adolescence, il y a beaucoup d'enfants qui voient les adultes après des fumées, alors ils disent que non, qu'ils doivent essayer aussi. Alors ça fait aussi que les petits enfants arrivent à fumer. Alors ma question est celle-ci, je voulais poser la question à notre invité.
Oui.
Qu'est-ce que le gouvernement congolais actuel a prévu comme sanction contre tous les enseignants là, et les directeurs et les professeurs même, qui sont des fumeurs en face des enfants? Et puis de deux, quel mécanisme le gouvernement a pris pour arriver à éradiquer le phénomène de tabagisme au niveau des écoles? C'est là ma préoccupation.
Merci Benjamin. Sokissé de Kindou, Manema, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci de m'accorder la parole une fois. Ce que je peux au moins souligner, je connais très bien précis comment lutter contre le tabagisme, surtout les colliers. Mais vous pensez justement le maître ainsi que le professeur pour rien. Qu'est-ce qu'il faut savoir aujourd'hui? Ce qui pousse aujourd'hui les enfants à trop fumer, là d'abord le problème des football. Quand ils se conduisent le joueur, il ne doit pas jouer sans pour autant fumer et sans avoir des bruits comme ça. Ça, c'est un. Des deux aussi, le conseil de part. Il n'y a pas votre futur, il n'y a pas votre part. Mais, il veut juste finir. Ça, c'est des. Pourquoi? Le problème aussi de musique. Le problème, il faut chanter, il y a un chantant, il faut aussi finir. Mais ce n'est pas bon de s'assurer que le maître ou le professeur le préfère, pour rien.
Alors, ce qui fait rapidement, ouais.
Ce qui fait ça, pour au moins terminer au moins ça.
Alors,
on va démontrer au moins des lois pour se sanctionner ou pour mettre les gens en prison.
Oui,
pour moi, je ne trouve pas un fait important.
Oui, c'est
ça. Mais là, ma question, c'est.
Oui, allez-y rapidement.
Oui, je demande à l'invité, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aider les jeunes enfants qui filment? Ça, c'est une chose. Il y a même des mamans qui commencent à filmer. Des jeunes filles, des mineurs comme ça, qui commencent à filmer. Comment faire maintenant pour les aider?
Merci. Rigobert Mouillou.
Monsieur.
Mais oui. Vous avez suivi la question de Benjamin qui dit que il affirme que les enfants imitent souvent, les élèves imitent les enseignants fumeurs, directeurs d'école fumeurs. Alors, quelles sont les sanctions que l'État réserve à tous ces enseignants et directeurs qui donnent de mauvais exemples aux élèves?
Oui, je disais tout à l'heure qu'on a prévu un projet de loi qui continue à attendre d'être adopté par le gouvernement et parce que nous pensons que ça devrait finir par le Parlement et le chef de l'État pour la promulgation. Cette loi date de 2006 et nous l'avons actualisée en 2010. Nous pensons que c'est une loi prioritaire avec vous, avec les intervenants que j'ai dit tout à l'heure, et je pense que nous pouvons pousser le gouvernement parce que c'est notre loi. L'objectif de la Convention cadre, l'objectif de cette loi, c'est de protéger la population, les générations présentes et futures. Donc c'est une loi absolument urgente à laquelle nous parlons le gouvernement. Nous invitons le gouvernement à de cette législature, disons le Parlement de cette législature, de pouvoir donner priorité. Donc les lois existent, les sanctions existent, mais nous ne pouvons pas sanctionner aujourd'hui les enseignants ni les artistes, ni les musiciens qui entraînent les jeunes à fumer, parce que nous pouvons actuellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons que les sensibiliser. Et nous voulons davantage de faire des études, parce que nous avons dit que nous avons fait des études à Lubumbashi, à Djibouti. Mais il faut aussi inviter notre gouvernement à financer les études locales, pour ne pas nous contenter seulement des études à New York ou en Chine ou ailleurs. Donc, ces études-là ne coûtent pas tellement cher, mais c'est important parce qu'à part des études, nous pourrions mieux sensibiliser la population, comme nous l'avons fait avec le cas des études sommaires qui ont été faites dans le marché et à Kishosa. J'aurais bien voulu, nous avons prévu le soir de vouloir faire les études jusqu'à Mounia, jusqu'à Maoumanima, jusqu'à partout, mais ce sont les moyens qu'il faut. Donc il faut non seulement avoir les lois, mais il faut aussi nous mettre à la disposition de moyens financiers pour nous permettre davantage de sensibiliser.
Oui.
Quand nous-mêmes, on aura la loi, il faut encore la faire connaître et puis il faut la faire appliquer. Donc, c'est indispensable. Nous avons fait ces études qui montrent effectivement l'intérêt n'est pas de protéger les enfants et nous avons déploré une situation de la part des enseignants. Pourquoi les enseignants? Parce que les enseignants sont vraiment considérés comme des modèles pour les élèves parce qu'ils forment. Quand un enseignant parle, a dit quelque chose à l'enfant, l'enfant va le répéter à ses parents. Il y a même des enfants qui préfèrent écouter plus les enseignants que les parents. Donc les enseignants sont le modèle. Et donc il doit y avoir, avec notre ministère de l'EPP ou de l'Éducation, nous devons interdire, ne pas la fumer, et spécialement dans les écoles, dans l'école maternelle, dans l'école primaire et dans l'école secondaire.
Alors, quel est l'âge des jeunes gens qui fument varie entre combien?
Bon, déjà, en 1998, nous avons fait une étude du ministère de la Santé avec l'ONES qui a montré que entre 9 et 19 ans, les enfants là étaient des toxicomanes, c'est-à-dire ils étaient
entre les enfants dont l'âge varie entre 9 et 19 ans.
Ah oui, c'est 19 ans. Ça, c'était déjà en 98 qu'on a fait cette enquête-là.
Oui.
Et il y avait 3% de ces personnes. Et aujourd'hui, nous avons c'était plus de 20 ans après. Je suppose que n'est pas que le nombre de pourcentages s'est augmenté et nous avons plus de 300 à 500 de pas armés de toxicomanes parmi les jeunes. C'est ce qui nous amène à nous parler souvent de phénomènes de Kourouna. On a oublié qu'il y avait des crises et on n'en a pas tenu compte, on n'a pas exploité, on ne nous a pas donné les moyens pour la prévention ou pour pouvoir se mettre sur les
gens. Alors,
ce sont des données, si on a des études, il faut encore les exploiter.
Alors,
donc, c'est dommage pour notre pays, mais nous pensons que les nouvelles autorités de cette législature vont accorder beaucoup d'importance aux études qu'on fait.
Ah, voilà.
Nous pensons que le plan sanitaire, sur le plan économique et ailleurs.
Alors, M. Rigolin Mbouyou, quelles sont les formes de tabagisme qui existent chez les jeunes?
Bon, écoutez, aujourd'hui on souligne un peu de tout, mais dans le tabagisme de l'emploi, fume par la cigarette, eh bien, il y a aussi le sale du tabac en poudre que l'on chute ou que l'on prise. Donc, surtout les jeunes filles.
Le tabac en forme de poudre.
En poudre, donc, on a la poudre, on la met soit dans les narines, on l'aime ça, soit on met dans la bouche, et bien, on pense que ça va guérir. C'est que les jeunes, on pense que ça va guérir la tinnitus, ça va guérir le mal de tête et autres grippes, mais c'est une erreur parce que tout, il existe aussi une forme de tabac qui est sans manger. Donc nos enfants, ils prennent toutes les sortes de fumées, et nous avons vu qu'il y a des enfants qui fument. Souvent, il y a des parents qui fument. Et par imitation, les enfants aussi sont entraînés à fumer. Donc, ils vont se confondre, ils vont se fumer en consommant toutes sortes de formes de tabac existantes.
Vous avez dit, il y a les tabacs en forme de cigarettes, en forme de poudre, que les jeunes gens mettent dans les narines, et quelles sont les autres formes de tabac?
Bon, je vous ai dit, les autres formes, c'est le tabac qu'on fume dans la pipe, plutôt dans les calebasses avec de l'eau. On prend de l'eau, on suppose ne pas qu'on va neutraliser, disons, la substance toxique, mais ces toxiques-là sont solubles dans l'eau et dans le sang, donc ils traversent la barrière là. Et en consommer. Il y a bien sûr aussi du tabac qu'on met dans les sous forme de chair, seulement qu'on vraiment fait un chenot, mais on peut l'injecter mais pas dans la peau. Ce sont des formes qui existent.
Alors, est-ce que on affirme que les jeunes qui sont exposés à la fumée secondaire peuvent courir les mêmes risques que ceux-là qui fument?
Je vous donne d'abord un exemple type d'un évêque en Belgique. Il y avait une famille africaine qui, dont le monsieur le mari, il fumait beaucoup. Et il fumait plusieurs cigarettes par jour. Et puis, avec la sensibilisation et tout ça, il a vu que non, c'était mangé pour lui. Lorsqu'il a arrêté à fumer, eh bien, c'est sa femme qui a commencé à fumer intensement. Ça veut dire que la femme fumait comme son mari. Mais quand il s'est trouvé dans l'état de privation depuis la cessation de fumer par son mari, eh bien, le besoin de fumer a et il a commencé à fumer aussi. C'est pour dire ceci que les non-fumeurs qui vivent à côté des fumeurs, donc sont aussi des fumeurs. On les appelle les fumeurs passifs et les fumeurs secondaires. Voilà pourquoi, disons, ils peuvent développer le même problème de santé que les fumeurs actifs.
Voilà, ils peuvent développer les mêmes problèmes, ceux-là qui sont exposés à la fumée au quotidien. Mais d'après certaines sources, aujourd'hui, la publicité, le marketing, les entreprises qui fabriquent les cigarettes ciblent beaucoup plus les jeunes parce que on a l'impression que ce sont les bons consommateurs actuellement.
Oui, les jeunes sont des bons consommateurs, mais c'est surtout le futur. Parce que l'industrie, c'est que, et si vous allez dans l'industrie, il y a très peu de fumée. Mais n'empêche que ça devient un produit que les autres ont besoin. Parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, l'industrie n'aurait pas intérêt à fabriquer. Mais parce qu'il n'y a plus de fumée. Alors, donc, quand on sait que les fumeurs actuels vont mourir dans 10, 20, 15 ans, mais il faut préparer déjà les autres fumeurs qui vont continuer. Et les jeunes, ce sont des pros faciles. Ce sont des pros faciles, donc ce sont les petits fumeurs qui sont préparés.
Donc les jeunes sont des proies faciles, ils constituent la cible de l'industrie, des industries qui évoluent dans ce domaine du tabagisme. Alors aujourd'hui, pour protéger la jeunesse, vous avez dit, il faut des lois. Alors au niveau du Parlement, donc d'après ce que vous avez dit, il n'existe encore aucune loi anti-tabac.
Non, il n'existe pas une loi anti-tabac. Il y a des mesures réglementaires que j'ai appelées l'arrêté aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé, qui réglemente en attendant. Mais vous savez, un arrêté par rapport à une loi, il y a une différence. D'abord, la loi, c'est l'application de la convention que nous avons ratifiée. Donc, il y a déjà plus de 8 ans qu'on a ratifié cette convention, et bien le Congo n'a pas encore signé, donc il est un peu exigeant vis-à-vis de cette convention. Et ce n'est pas bien. Parce que nous devons être responsables de pouvoir ne pas signer, disons, ratifier ou mettre en application, disons, les engagements internationaux auxquels nous avons souscrit. Donc, c'est pour cela que nous.
Oui, M. Rigobert.
Cette question, le dossier passe au ministre de plein pouvoir. Et le pays s'engage en signant en introduisant aux fonctionnaires chargés de négocier une convention. Et le plein pouvoir, il veut donner clairement que l'État s'engage, le cas, et ne remettra pas en cause, sous quelque prétexte que ce soit, le terme de référence l'engagement de la souscrit en signant cette convention.
Oui,
donc,
alors,
bien sûr, le terme de l'État est d'une ratification.
Oui.
Et cette convention a été ratifiée, donc l'État, simplement, l'État, il faudra que je très rapidement pour signer la loi nationale. Donc, la première activité, la première phase d'entrée en vigueur disons, de mise en œuvre de la convention, que nous avons signé la convention, pas de 8 ans tout simplement, et bien c'est de pouvoir signer cet arrêté là-bas.
Alors,
et nous, juste déjà depuis 2006, nous l'avons mis à jour en 2010, donc il est important maintenant que notre pays puisse employer le faire.
Alors, M. Mbouyou, des auditeurs nous ont écrit à partir de la page Facebook, le réseau social du magazine Okapi Service, Déti Balthazar Boukoumi dit ceci, même les autorités sont des fumeurs, policiers, ministres, ils tolèrent cela parce qu'ils fument. Alors, il dit, comment allez-vous lutter contre cela efficacement? Alexis Kangombe dit, c'est facile de lutter contre le tabagisme, il faut tout simplement augmenter le prix d'une tige de cigarettes, donc elle devrait coûter 10 dollars, comme ça les enfants ne seront pas en mesure de s'offrir un paquet de cigarettes.
La loi dont nous parlons, le projet de loi dont nous parlons, prévoit justement qu'il faut augmenter, il faut mettre des taxes qui permettent l'État d'augmenter le prix du tabac. Donc il faut que ces mesures-là soient payées. Il y a par exemple, disons, un arrêté de ministériel entre la santé et les finances qui existe encore depuis 2008 et qui est encore rappelé cette année au ministre de la Santé. Et nous pensons qu'ils vont le faire rapidement, peut-être même avant qu'on mette en place le nouveau gouvernement. Donc, ils connaissent le dossier depuis longtemps, et les questions posées montrent que vraiment il y a une urgence à le faire. Et alors, maintenant, les enseignants, ou les maîtres, ou les policiers qui suivent, ça c'est une tâche, ça c'est disons une partie, mais l'autre partie, c'est une chose responsable. Donc, ils ne doivent pas mettre leur intérêt personnel, en tant que chinois, de saboter les lois qui existent pour ne pas priver tout le pays des lois. Donc il faudra que le fumeur ministre, le fumeur, disons, policier, et quand on l'envoie d'arrêter quelqu'un, il ne faut pas qu'il dise que non, c'est mon collègue, et c'est quelqu'un qui l'arrête.
Oui.
Et le ministre doit dire, écoutez, moi je suis ministre, je suis j'engage le gouvernement, je signe cette loi pour pouvoir permettre de ne pas le protéger la population. Et en signant cette loi, il se protège même aussi, parce que nous ne voulons pas que notre ministre, notre policier, soit exposé et qu'il meure précocement. Parce que nous serons privés de cadres importants. Donc nous avons besoin de distinguer. Quand je suis fumeur, ministre, eh bien, logiquement, il faut dire non, je ne peux pas fumer pendant les heures de service. Parce que fumer d'ailleurs à l'école, la directive numéro 9 que nous avons signée, et que je ne suis pas l'arrêté aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé, dit qu'interdit de fumer, et disons, dans les lieux publics, dans les bureaux officiels, dans les hôpitaux. Donc le ministre ne peut pas fumer. Il doit fumer, il faudra qu'il sorte en dehors.
Apparemment, cette disposition de ne pas fumer dans les bureaux, dans les lieux publics, dans les hôpitaux, n'est pas respectée.
Non, elle est sortie, mais nous n'avons pas suffisamment d'utilisation, par manque de moyens, parce que pour faire tout ce contact, heureusement, grâce à vous, nous pouvons faire une télévision gratuitement, mais ailleurs, ce sont des chaînes commerciales, parfois, nous sommes obligés de trouver le moyen. Et nous devons publier, nous avons produit tous les signaux là, qui viennent de l'édition, dans tous les affectés à tous les niveaux.
Bien.
Et nous avons besoin de soutien pour cela.
Oui.
Et comme ça, nous allons insister davantage avec des gens comme vous, avec d'autres médias, et bien nous devons insister. Ça vise déjà à notre niveau.
Bien.
Mais comme
bien.
Nous n'avons pas les moyens de la force financière,
bien,
ça pose des problèmes.
Il
y a quand même des écoutes.
Bien, Rigobert Mbouyou Moutéba, directeur du programme national de lutte contre la toxicomanie, je vous remercie.